Mon père avait fait les cloches suivant les régions. Alors, il y avait l'Auvergne, il y avait la Corse, et puis il y avait les Cévennes et les Pyrénées. Quand mon grand-père faisait les foires de Ganges, avec mon arrière-grand-père, il faisait les foires de Ganges pour les sonnailles, il vendait la clapette. C'était la sonnaille du coin, ça, les bergers du coin. Le redon, c'est pas tellement une cloche d'ici. Le redon, c'est surtout pour les Alpes.
Et vous en fabriquez pour chaque région?
Ah oui. Alors, on avait gardé toutes les tailles dans tous les modèles. Il y avait 58 sonnailles. Un matin, j'ai trouvé le portail ouvert. On m'avait tout pris. On nous a pris toute cette collection. Que ça a été fini. Après, bon, on n'en a plus. Hein. Après, là, j'avais devant une table avec 30 cloches à vache avec les colliers. On avait une cloche d'église qui datait de 1560. Pris, marqué. Donc ils étaient au moins deux. Ça fait beaucoup de peine à mon père. Parce que c'était des cloches qui avaient été faites par son grand-père. François. Parce que mon père, c'était François-Xavier. Moi, c'est Robert. On remonte. François-Xavier qui vient de mourir. Après, il y a eu Joseph. Et ensuite, il y avait François, tout court. Qui est donc mon arrière-grand-père et qui était le grand-père de mon père. C'est en 1860 par là, François.
Et c'est lui qui a commencé à faire les
Non,
sonnailles,
il y en
non?
avait un autre encore, je me souviens plus. Non, je me souviens plus. Le premier qui a commencé, c'était Guillaume, mais il ne faisait pas des sonnailles, il faisait des clous. En 1500, c'est celui que. Il y a la photo à l'entrée lénière, là, de la cave, avec la pierre de la clé de voûte où il y a écrit dessus.
1605.
Voilà, c'est ça.
Et là, il faisait des clous.
Ils faisaient des clous. Pendant longtemps, ils ont fait des clous.
Vers 1920, 1930, par là, voilà.
Voilà.
Il y avait.
Voilà, c'était la fin. Hein. Parce qu'à l'époque, toutes les chaussures étaient cloutées, ça m'en est beaucoup. Hein. Alors, comme il y avait le charbon sur place, et le minerai de fer à Saint-Gervais, il y avait une mine de fer à Saint-Gervais, et ça avait des débouchés là-dessus. Comme il y avait beaucoup de cercles à Saint-Gervais pour les barriques. Alors ils avaient le châtaignier, ils avaient la tôle pour faire les cercles.
Et faisait des tonneaux.
Et ils faisaient des tonneaux.
Pour le vin?
Pour le vin. Pendant longtemps, hein, il y avait des cercles et des tonneliers. Longtemps, Saint-Gervais avait eu ça.
Et la veine d'argile, il la prenait dans la montagne aussi derrière?
Je ne sais plus où elle est. Il la prenait au-dessus de Castanet.
Onière.
Il y en avait deux. Il y en avait une Onière, mais Onière, ils ont tout chamboulé avec les. Quand ils ont attaqué la découverte, hein, ils vous expropriaient pour prendre les terrains. Oh, et mon grand-père, ils avaient trouvé une entente. Mon grand-père, il était comme ça. Il leur a donné le terrain, mais à condition que. Jusqu'à, je sais pas, moi je l'ai toujours connu, mais avec mon père, donc vous voyez que c'était jusque dans les années 70, par là, hein, 80, on est le charbon à un bon prix. Et en même temps, ils avaient des gros scrapeurs, des grosses pelles mécaniques, hein, ils s'étaient fait descendre, je ne sais pas combien de tonnes, dans un terrain à côté là, en allant au sale. Hein. Et alors on tirait de là, comme ça nous évitait de monter là-haut. Il avait un peu arrangé ça, quoi. Mais la veine, à l'origine, elle était en haut. Hein. Même le charbon, ils allaient le chercher sur place, alors, dans les châtaigneraies. Ah oui. Et il y en avait au-dessus des salles, du charbon.
La veine d'argile, c'était pratique juste à côté. Normalement, ça fait un trait blanc.
Ah oui, c'est.
On l'a pas retrouvé, nous.
Oh non, mais c'est fini, vous ne pouvez plus la voir. Elle a été complètement arrachée. Parce que elle n'était pas quand même immense. Hein. Mais comme nous, on n'en consommait pas, eux, en quatre coups de bulldozer, ils ont tout détruit. Il y avait un peu de blanc, il y avait un peu de gris, et un peu de beige.
Et elle était bonne pour les cloches.
Elle est excellente.
Et des sonnailles, vous en avez fait jusque quand?
90.
Ah, quand même, vous en faisiez encore à Hérépian.
Ah oui, si.
Parce que comment ça s'est passé? Vous étiez au Nières, jusqu'en quelle année? Vous êtes descendu en bas à Castanet?
Eh bien, mais les Nières, il y avait les deux. À Castanet, c'était les grosses cloches, les cloches d'église. Mais la sonnaille, ça a toujours été Onières, jusqu'en 1972, par là. C'était Onières. Et nous, on était descendus à Hérépian en 1965. Mais on ne faisait pas les sonnailles ici, encore. Parce qu'après, mon grand-père est décédé, on a fait le partage, et Fernand a eu l'atelier et la maison là-haut. Et donc, nous, on s'est retrouvés à tout amener ici.
Donc ensuite, vous avez fait des sonnailles ici.
Voilà.
Et la fonderie au Castanet, elle a fermé quand ?
Oh, elle a fermé quand on est descendu ici. Après, on a tout descendu ici. Mais c'est là qu'on a fait les plus belles cloches. Hein. Le bourdon de Béziers, 4 tonnes à Castanet. Hein.
Ah, c'est à Castanet que vous avez fait le bourdon de Béziers ?
Ah, le bourdon de l'Odève, 2 tonnes 5. Le bourdon de Nîmes, 2 tonnes. Les carillons de Périgueux, carillons de Notre-Dame-des-Neiges, carillons de... on a beaucoup. Ici, on en a fait, mais c'était déjà, c'était plus que... Des cloches, il s'en est fait beaucoup jusqu'en 70. Et après, ça a baissé.
Vous êtes né en quelle année ?
46.
Donc, lorsque vous étiez enfant, les fonderies Granier étaient déjà à l'apogée, alors ?
Ah oui, moi, dans les années 60, vous voyez, donc j'avais déjà 14 ans. Hein. On prenait beaucoup, là. Moi, je me souviens avoir assisté souvent au coulées de cloches.
Alors, comment vous avez appris, vous ?
Bon, comme ça, hein. Avec mon grand-père et mon père. On regarde, on te forme, et puis voilà.
Donc, finalement, vous avez toujours été dedans ?
Toujours. Toujours. Et après, moi, je pressentais que ça allait baisser. Je sentais la concurrence espagnole pour les sonnailles. Je voyais mon père, et on était obligé de s'aligner pour les prix. On ne gagnait pas beaucoup dessus. J'ai dit ça un jour, tu ne pourras pas gagner ta vie avec ça. Tu seras obligé de t'arrêter. Parce que les Espagnols en bannaient de plus en plus. Et alors je me suis dirigé parce que quand on posait les cloches, il fallait les électrifier, les rendre automatiques. Et souvent on me demandait, je dis non, ça on ne le fait pas. Nous on vous fera la cloche, on vous la posera, on fait le jour pour la suspendre. Mais après, au niveau automatisme. Et alors je me suis dit, mais c'est là qu'il va y avoir du travail. Alors, au début, avec mon père, je lui en ai parlé. Et alors, on a inventé des appareils pour faire tourner les cloches et pour faire teinter. Et alors, on fondait les pièces en aluminium, à fonderie, évidemment. Et les petits disques où on faisait les automatismes avec des plots, on les fondait aussi à la fonderie en bronze.
Mais les Graniers ont toujours été un peu inventeurs.
Toujours. Oh, puis, il y avait, je vais vous dire, ce François, il était d'une adresse, mais à froid au possible. On a encore à la maison une espèce de moulin à poivre qu'il avait fait. Avec tout le système, il avait fait les engrenages à la lime. Mais très adroit, cet homme. Et mon père aussi, il était très adroit, mon père. Mais moi aussi, j'aime bien tout ce qui est manuel. J'aime bien réparer. Quand il y a les gens, il y a un truc, on va aller voir Robert, il nous trouvera peut-être une solution ou il nous l'arrangera.
Donc vous faisiez l'entretien des cloches dans les clochers ?
On faisait l'installation. De 75 à 90, ça a beaucoup marché. 65. C'est en 65 qu'on a commencé à fabriquer les appareils, nous. Et après, ça a bien marché. Mais moi, à partir des années 80, je fabriquais toujours. Je me suis aperçu que là aussi. Le temps que je passais à fabriquer mes appareils, j'étais pas dans les clochers, j'allais pas voir les clients. Et la concurrence commençait à se faire. Hein, parce qu'on était les seuls. Tu plaçais la cloche, tu plaçais les appareils électriques. Hein. Ça a été vraiment les 30 glorieuses là, pour nous. Hein. On était 17 à travailler là. Hein.
Ah ouais. Pour les grosses cloches ?
Pour tout, hein, pour tout. Non, en tout. Sonnailles, cloches, grelots.
Et les gens étaient spécialisés ? Ceux qui faisaient les grosses cloches, ils faisaient aussi les sonnailles ou...
Non. Il y en avait 3 pour les grosses cloches. Mais à l'époque, à Castanet, ils étaient 4. À travailler aux grosses cloches toute l'année. Une coule est finie, on attaquait une autre. Toute l'année, on travaillait aux grosses cloches. Plus après, 3 pour les gros lots.
Ils ont toujours en cuivre et en lierre.
Ils ont cuivre et en lierre. Vous voyez, à Castanet.
Eh oui, c'est la photo. C'est...
Mon père me l'avait dit qu'il y avait.
Alors, ah oui, il savait qui.
Ah oui, il le savait qu'il y avait.
Vous l'aviez noté, non ?
Non.
Parce qu'on n'arrive pas à savoir qui c'est. Il y en a un, paraît-il, qui est mort il n'y a pas longtemps au salle, qui a été sur la photo.
Eh oui, Caliste.
Et hier, on a vu le fils Coste.
Ah, son père a travaillé au Nières, oui. Très avroid, son papa. Mais il n'était pas là, hein. C'était pas l'époque. Là, là,
ça, c'est
elle est vieille, hein,
c'est 1901,
non? Oh, à peu près par là, oui. Ça, je sais que c'était René du Patrou, on l'appelait. René le Patrou.
Le petit qui est assis.
Ouais, René du Patrou. Et après, il y avait Laurent aussi.
Et il y avait une forge avec un chien qui courait dans une roue.
C'est le soufflet qu'on avait, nous, à l'atelier. Mon père m'a raconté qu'à l'époque, il y avait un renard dedans. Il y faisait tourner un renard. Mon grand-père, il paraît qu'il sifflait, hop, il rentrait dedans, il se mettait à pédaler. Il sifflait, il sortait.
Bonjour madame.
Ah, c'est ma mère. Je montre.
Bonjour madame. C'était les cloches.
Et les sonnailles.
Et les sonnailles.
Monsieur, il a une sonnaille où il y a écrit François Granier dessus. Elle est vieille, hein?
Elle n'est même pas de papa.
Non,
elle est de
mon
grand-père. C'est-à-dire, ça date de...
1800, de 1900
la fin,
par là.
La fin du 19e
ouais.
siècle, quoi.
Ouais, ouais.
Ah oui.
1890, un truc comme ça.
Oh oui.
À peu près.
C'est-à-dire qu'à l'époque, la famille de mon mari allait vendre en Espagne les sonnailles, les cloches, tout ça. Maintenant, c'est le contraire. C'est l'Espagne qui vient les vendre chez nous. Papa, quand il était tout petit, une fois, son grand-père l'a pris à la foire en Espagne.
C'est l'inverse, maintenant.
Oui. Et pour les cloches de bétail, c'était des cloches en bronze. Si une vache heurte une pierre, la cloche se fait, elle ne sonne plus. Il en faut racheter une autre. Alors, maintenant, ils prennent des cloches en acier.
Oui,
nous, nous en faisions.
C'est ce qu'il y a le plus, qui se vend le plus maintenant, la Primana.
Ah oui, la cloche en acier. Mais qui se fait en Italie.
La Primana, elle est en tôle.
Elle n'est pas en cuivré.
Ah non.
Non,
elle est brasée, tout simplement.
Elle est brasée.
Vous avez vu la machine? Ils ont un four. C'est magnifique pour braser. Ils en mettent une dizaine au bout sur un tapis roulant. Ça part, ça passe dans une espèce de four.
Ça fait en électrolyse, non?
Et ça ressort. Non, c'est pas fait électrolyse. Hein.
Ah, oui.
C'est fait, attention, hein, c'est bien foutu. Hein.
Oui.
Moi, j'avais demandé à l'époque, pour aller plus vite pour les sonnailles, elle valait 85 millions d'anciens francs. Et il y a longtemps.
Mais pour faire les rouleaux, dis-toi bien que nous, la machine...
Ah oui, non, mais la machine...
Elle nous a coûté cher aussi,
oui.
Ça nous a coûté cher. Quand nous avons quitté, elle valait 100 millions de francs, la machine. Seulement, on en vendait. Maintenant, on n'en vendrait presque plus, parce qu'ils viennent de Chine, les rouleaux. Tout ce que nous faisions vient de Chine, d'Espagne ou d'Italie.
En Argentine, qui est-ce qui vous les vendait?
Ah, mais on les faisait.
Oui, mais là-bas, il y avait quelqu'un qui les vendait?
On avait des clients.
Ah.
Même on vendait même des gros lots, des petites clochettes, dans un état du sud des États-Unis. Un état du sud où il y avait des Indiens. Les Indiens achetaient des petites clochettes, des gros lots, des choses comme ça.
Et les petites qu'on vendait en Nouvelle-Calédonie?
On en vendait en Nouvelle-Calédonie, des cloches.
Oh, et puis là-bas. Un beau jour, ils nous ont dit, écoutez, vous êtes plus compétitifs. On les a en Chine à un prix, ça a été fini.
Ah, oui.
Ils étaient gentils, ces jeunes. Ils ont essayé de nous faire travailler.
Ah oui.
Moi, je sais, la dernière commande, il y en avait 400 000.
On a passé 3 mois à la faire. Et nous étions 18.
On gagnait 1 centime par cloche.
Oui.
1 centime, vous vous rendez compte? Ça ne payait pas.
Non, quand on a payé tout le monde.
Ouais.
Non, maintenant... L'artisanat, ça ne vaut plus grand-chose, hein, maintenant. C'est foutu. Et là, le village d'où était originaire mon mari, il y en avait qui faisaient des sonnailles. Hein. C'était l'industrie du coin. Hein. Il y en avait. Ils étaient... Tu avais le père de Sophie,
oui,
qui en faisait. Tu avais ceux de Castanet. Tu avais ton arrière-grand-père, tout ça, qui faisait des sonnailles. Hein. Eh oui. Bon, moi, je vais monter. J'ai 91 ans, alors.
Eh oui. Bon, je vous dis au revoir.
Allez. Au revoir, madame. C'était
au revoir, monsieur, dame.
On était très honorés de vous voir. Et ça, c'était
les creusets.
Les creusets pour verser dans la fosse, non?
Non, on les mettait
non.
dans le four, là, le petit
ah,
four.
Oui.
Et puis on coulait comme ça dans les châssis.
D'accord.
C'était pour les... Oui, on faisait des médailles. Là, on avait fait un gros lot, là. Vous voyez, mon père, il avait commencé à faire un gros lot. Des gros pour les chevaux, ça. Ouais, c'est des modèles, tout ça. Et voilà les bancs. Ah oui. Il se mettait pour faire la sonnaille.
Bien sûr.
Et alors là, il manquait l'enclume. Hein. Je ne sais pas où il est passé. Là, il y avait l'enclume là, pour mettre le marteau.
Et oui.
Et là-bas, le ciseau pour faire les entailles. Et ça, c'était le noyau pour les grelots. Et il y a la bille dedans. Bon, c'est pas solide de trouver, mais enfin, maintenant, en plus, ils ont pris ils se sont séchés. Mais au début, ça, attention, ça va.
Ah oui?
Ah oui, ouais, ça
c'est super pratique. Fragile. Ah oui, d'accord.
Regardez. Ça part comme...
Ah oui, d'accord.
Hein. Je le garde en dessous. Hein.
Bah oui.
Et ça, c'est l'établi de mon père quand il est mort.
Ah oui?
Oui. Oui. C'est resté comme il était.
Les grelots avec le cheval, comme ça, c'est
ouais,
vous?
Oui, oui, oui.
Ah, c'est souvent qu'on en voit passer, on se demande ouais, à qui hein. C'est vous. Ouais. Et oui. Des gros sonneaux, là-bas.
Oui, là, des gros sonneaux. Oui.
Ça s'est fait depuis longtemps. On en trouve en fouille depuis le Moyen-Âge.
Oh oui, 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 il y a longtemps. Puis là, je sais qu'il y avait des clients là, dans le Cantal, ils aimaient ça. C'est un modèle, hein, on a lu. Mais ils aimaient la sonnaille comme ça. Voilà, ça, c'était des petites 50 mm. Et ça, vous voyez, c'était pour faire ce que vous avez vu là-bas. On le remplissait de sable, on mettait là, on tapait, ça le comprimait un peu, et on avait la boule.
Avec le cheval, c'est vous?
Ah oui, oui, oui. Les Allemands, pour les traîneaux, ils m'en commandaient pas mal de grelots, mais des gros, hein. Des grelots qu'on faisait à la main. Hein. Et là, le coup pour les sonnailles. Avec ici... La trappe de tirage avait la cheminée. Ça traverse dessous, ça va à la cheminée. Vous voyez l'argile comme elle était, avec de la paille. On rentrait les paquets. Ça, c'est un paquet avec la cloche dedans, vous voyez. En voilà une qui a été mal cuivrée, vous voyez. Ça n'a pas fondu.
Ça n'a pas fondu.
Ah, ouais. On les entourait avec des bandelettes.
Eh oui.
Mais Rémi fait pareil, hein. Celle-là, elle a
donc
pas.
Vous achetez les bandelettes comme ça, là?
C'était des découpes, ça. On les achetait à Lyon. Ça, c'est le paquet qu'on appelle. Hein. C'est de l'argile et dedans, il y a la cloche, vous voyez. Entouré de papier, d'ailleurs, on le sent.
Et ça, c'est le trou pour faire couler.
C'est le trou pour faire couler le métal en trou. Après, on le mettait comme ça. Et ici, avec le crochet, on les remuait comme ça, pour faire couler le cuivre qui était en trou.
Et les grelots, alors, comment ça s'est passé? Parce que vous aviez inventé une machine extraordinaire.
Ben, il y est, là. Hein. J'ai pas pu la vendre. C'est dommage. Hein. Je la regardais encore hier. Ça me fait peine. Parce que là, maintenant, les joints vont se... J'ai encore le calendrier où il y a la dernière, parce qu'on les notait, les coulées. Là où il y a la dernière coulée, fin décembre 2011. On ira le voir.
Et comment ça marchait, alors?
Oh, elle était superbe, hein. Ça marchait, oh, c'est comme une presse hydraulique, hein. Mais c'était complexe. Hein. Mais je ne l'ai pas inventé, je l'ai calculé. Et après, j'ai trouvé personne en France pour la faire. Parce que le problème, je vais vous dire où il était, c'est que ce genre de machine existait, moi je m'en suis inspiré d'ailleurs, hein, marchait pour l'aluminium, le zamac et le plastique. Donc un maximum de 200 degrés en température. Mais il n'y en avait pas pour le bronze. Il fallait monter à 1100, 1200 degrés. Ça n'existait pas. Alors je cherchais, parce que à la main, c'était plus possible là aussi. Hein. C'était plus possible. Puis les ouvriers qui étaient très avrois, qui faisaient ça, ben, ils ont pris la retraite. Alors tu formais des jeunes. Déjà, c'était une autre génération. Là, maman en parlait à ma mère. Mais regarde comment les choses ont évolué. Avant, moi, je me souviens de mon père. Mais il avait deux ouvriers, là, dans les années 50-60. C'était des frères. Mais alors, d'une amitié, vous ne pouvez pas savoir comment ils s'entendaient. Jamais de problème, jamais rien. Et le plaisir. Et puis, on sentait qu'ils avaient à cœur l'entreprise, vous voyez. Moi, le dernier ouvrier, que s'il avait pu me faire couler, il m'aurait fait couler. Il était affreux. C'est ce qui m'avait goûté, d'ailleurs. Après, j'ai dit, oh, je fous le camp. J'arrête, je prends la retraite, maintenant, j'en ai assez.
Vous avez arrêté en quelle année?
Oh, j'ai arrêté en 2012.
À la mort de votre père?
Voilà. J'étais foutu avec les grelots de Chine. Hein. Oh, c'était fini. Hein.
D'accord. Les grelots qu'on a aujourd'hui, c'est des grelots qui viennent de Chine?
Ah oui, tous. Hein. Tous.
Donc là, cette machine à grelots, c'était fait par...
Elle injectait.
Injectée.
Voilà.
Et vous en faisiez combien à la fois?
Oh, on faisait... Il y avait 3 gros lots dans le moule. Hein. Et on faisait à peu près 80 injections dans la journée. Donc 250 gros lots à peu près.
Il fallait laisser refroidir.
Il fallait laisser refroidir.
Sur la machine à injection, elle faisait quoi?
Elle faisait les coquilles. Quand on avait les deux coquilles, on mettait la bille dedans et puis on brasait les deux coquilles. Les braser et puis après, il fallait y mettre le passant, l'anneau. Il fallait les polir aussi, les gros lots. Vous vous rendez compte qu'actuellement, ils vendent des gros lots sur le marché. Sur le marché. Au même prix où moi, je les vendais aux grossistes en 2010. Voyez Aubertino, hein, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, fouillez, monsieur Granier, vous ne pourriez pas en trouver un peu. Mais je lui ai dit, allez, mon plus gros client, c'était Jean-Noël à Saint-Étienne. Je lui ai dit, écoutez, maintenant, le seul qui a des gros lots, c'est Jean-Noël. Il s'est mis importateur. Et plus personne n'a pu en commander en Chine. Parce que c'est lui qui a fait faire. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de mes gros lots, il les a dû le donner à un bonhomme et qu'il a dit, regarde si là-bas, tu peux obtenir un truc comme ça. Un gros lot dans ce style-là. Et alors, il a l'exclusivité. Donc, tous les gens, maintenant, qui étaient mes clients, sont obligés de passer par lui. Et alors, Bersinon m'a dit, vous savez, quand même, les gros lots, maintenant, ils ne sont pas comme les vôtres. Ça m'a fait mal au cœur de voir tout arrêter. Parce que là, encore, peut-être il y a 2 ans que j'ai arrêté, ça va faire 2 ans, peut-être encore, elle marcherait. Mais après, les joints, avec cette huile hydraulique, ça ronge. Chaque fois qu'il venait, le bonhomme, pour la réviser, c'était 1 million d'anciens francs. Hein. Alors j'allais le chercher en avion, il venait de Paris. J'allais le chercher à Vias, Béziers-Vias, là. Il venait ici, je lui louais l'hôtel à la Malou. Il restait 3 ou 4 jours. Et puis, je le ramenais à Vias et il repartait. Vous comprenez que pour la remettre en état... Mais c'est pareil. La machine est de 83, je crois. Eux, c'est pareil. Ils n'ont plus le personnel qui connaît cette machine-là. La dernière fois, ils m'en ont envoyé un. Ça n'allait pas, ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient les nouvelles, mais celle-là, ils ne la connaissaient pas.
Est-ce qu'elle a été copiée après, alors, votre machine?
Alors, la machine, après, les Allemands et les Espagnols se sont mis à me faire. Parce que moi, c'est les Italiens qui me l'ont faite. Parce que je vais vous lire comment j'ai trouvé. C'est que... Je cherchais partout. Il n'y avait pas Internet à l'époque, il y avait eu Internet, ça aurait été mieux. Mais on était abonné à l'usine nouvelle. Et alors, un beau jour, à Nice, on me commande des cloches. Je vais installer ces cloches à Nice. Et alors, on discute comme ça avec les gens à droite. Les gens sont curieux, ils viennent voir tout ça. Et je ne sais pas comment je me suis mis. Alors, qu'est-ce que vous faites, des cloches, des gros lots? Je dis, mais... Il y a un type qui me dit, mais moi je vous ai trouvé la solution. Je dis, ah bon, mais oui, il y a un bonhomme, un Italien, qui vient de s'installer à Nice, et il fait des poignées de cercueil, des croix, tout ça, mais par injection. Et il coule le bronze comme vous. Il m'a dit, mais on va aller le voir. Je suis allé voir ce monsieur, très gentil d'ailleurs. Et bien, il m'a dit, écoutez, c'est Triouzi, je vais vous donner toutes les coordonnées, et vous serez servi, regardez-moi, ça marche impeccablement. Alors, j'ai écrit à ces gens, ils m'ont dit pour se déplacer, mais on a un correspondant, parce qu'on fait aussi des machines pour l'aluminium, on a un correspondant à Paris. Et il viendra vous voir, et ce monsieur, très gentil, est venu, il a bien compris le problème, je lui ai montré les gros lots, tout ça, il s'en est occupé, et il m'a dit, il faut faire les moules aussi. Il ne s'agit pas de faire que la machine, il faut faire les moules. Ils m'ont fait des moules. J'ai encore un moule qui servait depuis 83. Vraiment, un truc impeccable. Et alors ces gens, de temps en temps, ont remplacé les moules. Ce qui était vraiment utilisé souvent. Et alors, puis à la machine, il y avait les pistons, il y avait le conteneur à remplacer, pièces d'usure. Et chaque fois, je commandais. Et ça, c'était impeccable, c'était merveilleux. Et puis un beau jour, j'ai plus de nouvelles. Alors je dis, est-ce qu'ils ont fermé? Je pense qu'ils ont fermé. Et j'ai été embêté. Alors j'ai cherché en France. Seulement, je ne connaissais pas, moi, le métal qu'ils mettaient, la dureté. Ça, je ne le savais pas, je ne connaissais pas. Et alors, finalement, j'ai trouvé un type à Thiers. Mais à Thiers, je n'aurais pas cru, il y en a 3 fabricants de moules. Et alors, je vais voir un type. Il était en train de faire des moules, aussi 3 moules, il y avait là, pour les poils à Tefal. Oh ben, j'ai dit, voilà, cet homme, c'est parfait. Il me dit, il faut que vous m'ameniez un vieux moulin. Alors, je lui ai amené un vieux moulin, monté tout ça, il me dit, il n'y a pas de problème. Je dis, ouais, mais... Parce que l'italien, l'avantage qu'il avait, c'était le traitement thermique, parce qu'il faut faire un traitement contre la chaleur. Et ça, c'était une merveille. Ce bonhomme, je le lui dis. Parce que je lui dis, est-ce que vous avez fait pour le bronze ? À jamais, il me dit. Non, mais ne vous inquiétez pas, il me dit. Ah ouais, mais je lui dis, mais moi, le traitement thermique, c'est important chez moi. Ne vous inquiétez pas, il me dit. Bon, il me fait le moule. Je vais le chercher, je le monte, ça n'allait pas. Je vais redémonter le moule, je suis remonté chez lui. Il m'a dit, écoutez, c'était en septembre. Il m'a dit, écoutez, je vous le redescendrai. Heureusement que j'avais un vieux moule en attendant, moi. Parce que septembre, c'est la saison, là, hein, la chasse jusqu'en décembre. Hein. Pff, alors, novembre, rien, décembre, rien, janvier, rien. Mais je viendrai, on a eu un peu de retard, tout ça. Et puis, vers la mi-février, il m'a descendu le moule. Le moule, il a tenu un an. Jusqu'à ce que j'arrête, là. Déjà, il n'allait plus. Et alors, il y a un monsieur qui était ingénieur, là, un peu en fonderie, tout ça. Ah, il m'a dit, c'est... Si vous voulez, traitement thermique, c'est la carapace, hein, c'est ce qu'il y a dessus. Hein. Il m'a dit, c'est le plus important. Mais il m'a dit, je sais qu'ici en France, c'est très très difficile d'avoir quelqu'un. Alors, on en a fait faire sur Marseille, on en a fait faire sur Lyon. Là. Mais c'était pas ça. Alors que l'italien, c'était dur, ça tenait à la chaleur, ça bougeait pas. Hein.
Ça, c'est les gros lots.
Ça, c'est les gros lots.
Qui étaient faits à la machine.
Qui ont été faits à la machine. Et ça, c'est un vieux moule, oui. Commencez à accrocher. Numéro 8. Numéro 6 et numéro 5, sûrement, quelque part. Et le 7.
D'accord. Et après, il fallait les enlever, les réunir.
On les coupait, puis on les soudait.
Et ça, c'est la machine.
Voilà, ça, c'est la machine. Et ça, c'est les moules, oui. Là, il y a le petit four, il est resté comme... Avec les lingots, quoi. On les mettait là pour préchauffer.
Et on chargeait où, alors? On chargeait
ici. Là. Ça, c'était un piston, oui, de rechange. J'avais... Il y avait la circulation d'eau dedans, ça allait jusqu'au bout, ça revenait. La tige est percée, vous voyez. Entrée d'eau, sortie d'eau. Elle allait là-bas, elle revenait pour les refroidir. C'était bien fait, hein, avec des circuits d'huile, hein, partout. Hein, ça graissait, partout ça graissait, hein, automatique. Hein. Oh, elle était bien faite. Hein. Ça, c'était les moules de 4-4-5. Deux numéros 4 et un numéro 5. Début 2011, on l'avait toute nettoyée. Il n'y avait pas une graine de saloperie. Et on avait fait la vidange d'huile. 300 litres, il y a dedans.
Ah, mais là, on voit bien l'empreinte de l'autre côté.
Ah, oui. Alors, ça fermait, attention, il faut voir la pression. Hein. Et ça, c'était la petite centrale pour graisser tout. Ça partait et ça allait distribuer dans tout ce qui était en mouvement. Et ça, c'était le refroidisseur. Là, il y avait un truc, de l'eau qui circulait sans arrêt. Et lui, il arrivait et puis elle repartait là, vous voyez. Et ça, c'était l'évacuation d'eau parce que les moules étaient refroidis aussi.
Les gros lots, on avait embouti, après il fallait attendre un petit peu avant d'ouvrir.
Ah non, ça s'ouvrait automatiquement.
Ça, c'était ça.
Voilà.
Ça, c'en est un qui est fini.
Ça, c'est un qui est fini. Ouais, c'est un 8, ça. Ça, c'était le vieux moule. Alors là, il était...
Ah, celui-là, il n'était pas bien.
Non. Mais il sonnait très bien. Mais vous savez, une fois poli, après, hein, là, il y avait beaucoup de bavures, mais... Le gros lot lui-même, il était lisse. Hein. Il allait bien. Hein. On le mettait au tonneau à polir. Et...
Mais j'ai pas compris comment vous les soudiez. Au chalumeau, non?
Ouais.
Ah, au chalumeau, d'accord. Brasé au chalumeau, voilà. D'accord. Ah oui.
Voilà. T'as prené du temps.
Ah oui, tu chauffes, tu mets une goutte, ça coule.
Et alors, on le mettait, une fois qu'ils étaient brasés, on les mettait là-dedans, avec de l'eau et un peu de silice. Et on les fait tourner toute la nuit.
La silice permettait de polir.
Voilà. Et après, on les mettait là, hein, de l'eau chaude. On faisait chauffer de l'eau bouillante. On mettait un panier de gros lots. Alors, l'évaporation, ça les faisait sécher un peu déjà, vous voyez. Et après, on les passait là.
Dans
et à la main, on les passait là-dessus pour les sécher.
Ah ouais.
Ils brillaient bien, hein. Oh. C'était du boulot, hein. Vous avez vu les lingots là-bas, sur le four, 60-40. Voilà. Hein.
Et les cloches, vous mettiez quoi, 80-20?
Voilà.
Mais les cloches, c'est délicat. Il faut rajouter sans arrêt l'étain, qui lui brûle plus vite, c'est ça?
Oui, on en rajoute.
Il s'évapore.
L'étain, c'est 200 degrés.
Eh oui, mais c'est délicat pour savoir ce qu'on doit remettre comme étain.
Oui, c'est délicat. Je vais vous dire, c'était à l'œil. Et on l'embêtait toujours un peu plus. Bourre, vous voyez? Alors, il me faisait l'analyse. Ouais, j'ai pas mis. Silice, zinc, plomb, cuivre, fer.
C'est la composition de...
Des lingots.
Des lingots pour les cloches.
Voilà.
C'est précieux.
Oui.
Ça, c'était le lingot qu'il fournissait.
Voilà.
Oh, c'est incroyable, ça.
Vous voyez, là, mon père, ça, c'était le coulé. Vous voyez, il avait marqué les dates, hein, février. Et là, le moule était fini. On faisait la coulée. C'était les derniers préparatifs, vous voyez, 15 jours avant.
Du 13 au 28.
Voilà. Et là, vous voyez, il avait mis la potée. Argile, chamotte, de l'argile de fausse cloche, du produit réfractaire, de la terracotte et du poêle.
Ah oui.
Poêle de vache. Et puis pour lier le... Et on mettait la paille aussi, ça se voit. Là. C'est mon père qui s'était amusé à faire la coupe, vous voyez, de cloche avec le noyau, la fausse cloche qui sera en réalité après la cloche en bronze, et après la chape va venir prendre là-dessus. On voit par exemple le noyau ici, vous voyez, on voit les différentes épées. Le noyau, c'est ça. Bon, il y a la construction en brique, le support, puis on fait le noyau en argile, et puis ça, c'est la fausse cloche. Voilà. Et après, on découpe la planche plus épaisse et on fait la chape. Vous voyez la coupe d'une cloche, c'est pas pareil. Hein, on voit le dessin de la coupe. Vous voyez que c'est pas pareil, le point de frappe est beaucoup plus épais qu'en haut. Vous voyez cette cloche-là? Regardez, vous l'étendue. Regardez la lézarde qu'il y a.
Ah oui, d'accord. Et oui, puis là, ça sonne plus.
Oh, c'est fini.
Ah oui. Et quand vous les installiez, alors il fallait une grue, tout ça, c'était...
Au palang, non, on avait des palangs, ouais.
Oh, dans les clochers, tout ça?
Trois palangs, on avait.
Ça devait être dangereux, quand même.
C'était fatigant, surtout. Parce que vous pliez le palang, vous savez, ça monte d'un centimètre à chaque coup, hein, à peine. Ouais. Hein. Alors, d'en bas jusqu'en haut du clocher, souvent, on mettait ou la matinée ou l'après-midi hein, pour la monter.
Et puis, c'est inquiétant, quand même, il ne s'agit pas que ça tombe.
Non. Attention. Hein.
Ah ouais.
Et on a un ouvrier qui s'est tué comme ça. Quand la cloche arrivait en haut, en bas, on la tirait toujours avec une corde pour qu'elle ne racle pas le mur. Mais arrivée en haut, on la poussait souvent avec le pied comme ça. On s'accolait à la fenêtre hein, et puis avec le pied, on écartait. Je ne sais pas comment il a fait, parce que les cloches, il faut se méfier, ça tourne aussi. Et alors, des fois, ça part, et puis quand ça lâche, ça revient d'un coup. Hein. Et il a été déséquilibré. Il est tombé. Il est arrivé, il était mort en bas. Je sais que mon grand-père a dit que j'ai dû aller avertir la veuve. En plus, ils se connaissaient tous, c'est un ouvrier, mais de Castanet. Il m'a dit, ce qu'il leur raconte, il disait, j'étais embêté d'aller voir cette dame. Hein. Quel c'est, il s'appelait. Il était de la Lozère. Hein. C'est tombé. Mais ouais, que voulez-vous. Regardez, départ des cinq cloches de la ville d'Incalca. Elles étaient belles, hein? Ça fait notre gloire, hein? Et là, Benoît, la plus grosse. Bourdon d'eau dièse. Bénédiction des cloches de la ville Notre-Dame-des-Neiges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 cloches d'un coup?
Ah ouais.
Et les dernières cloches que vous avez fondues, c'était quand alors?
Les cloches là? Oh, parce qu'après, entre-temps, on a monté une fonderie à Magalas. Rien que pour les cloches.
Et comment ça se fait que vous avez monté là-bas?
Parce qu'on connaissait bien le maire. Il y avait des avantages. Et ça nous faisait de la place. Et ici, un peu, on était juste. Donc, on a dit, on sera bien. Puis, ça sera moderne. Enfin, bon. Et on a monté ça là-bas.
Et maintenant, c'est un musée?
Maintenant, non. On était, comme on appelle ça, atelier relais. Donc, c'était à la mairie, quand même, hein, l'atelier lui-même. Et puis, de nouveau, ça a baissé. On a dit, on ne va pas payer là-bas pour y aller de moins en moins. On a arrêté. Et le maire l'a vendu à des bonhommes qui font agence immobilière. Ils ont tout refait dedans. Hein. Agence immobilière et assurance.
Et le musée Vin et Campagne, là, ça existe toujours?
Ah oui. Allez-y. Vous y êtes allé?
Et non, pas encore.
Il faut y aller.
C'est ouvert toujours?
Ah oui.
Qui est-ce qui tient ça?
Alors ça, c'est la mairie aussi. Mairie et office de tourisme. Et alors, on avait un peu convenu avec le maire qu'il nous arrangeait pour la fonderie. Mais nous, on lui donnait une bonne partie de notre collection. Mais donnée. Et donc, ils ont beaucoup de choses de mon grand-père. Ils ont des vieilles cloches de 1600. Ils ont le joug de cette cloche, le joug en bois. Et là, je n'ai pas été content que mon père le leur donne. Parce que moi, j'aurais aimé... Le joug, c'est le dessus. C'était plus haut que la cloche. C'était énorme. Et je m'étais crevé pour le descendre. Le joug sans la cloche et la cloche sans le joug, c'est mieux s'il y a le joug.
Et ces cloches, qu'est-ce que c'est?
C'est des cloches qu'on a refondues. Elle fait 1,5 tonnes, celle-là. Je vais garder parce qu'elle est très jolie. Regardez les anses. Elle est magnifique.
Avec des anges qui ont les bras croisés devant.
Ça, c'est exceptionnel. Tous les gens qui viennent, les amoureux de cloches, les campanologues, tout ça. Monsieur Carme me dit, jamais j'ai vu une cloche comme ça. Même à mon avis, vous voyez, ils ont eu de la chance parce qu'elles sont un peu minces pour le poids de la cloche. Elles auraient pu casser. Elles portent cassure, elles sont minces.
Et elle a sonné dans une église, cette cloche?
Ah oui, je vous montrerai où elle est cassée. Elle s'est cassée.
Elle était où?
Dans l'Aveyron.
Alors comment ça se casse une cloche? Quand le bâton est mal placé?
Vous savez, à un moment donné, il arrive que il y ait ce qu'on appelle des pailles dans le métal. Alors ça fait un petit trou, l'eau s'y met, ça gèle, ça écarte un peu. Et au fil des années, à force, ça fait une fente.
C'est pas une question de bâton qui serait mal placé?
Non. Bâton, on y fait très attention. Non. C'est pratiquement toujours comme ça. Là, il y avait, vous voyez, ces deux cloches de l'Aveyron, du même fondeur, Triadou. Triadou, c'était dans les années, au 19e siècle, c'était.
À Rodez.
À Rodez. C'était un fondeur formidable. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder, on ne fait pas des cloches aussi bien maintenant. D'une finesse. Et tout ça vient parce qu'il faisait une bonne potée. Maintenant, les cloches. Parce que nous, vous savez, on les mettait dans la fosse. Et puis, on les entourait de terre pour éviter la pression du métal quand il rentre dans le... Parce que c'est fragile, un moule en argile, quand même. Alors, on tassait tout ça. Maintenant, c'est fini. Les cloches sont faites sur le sol. Ils mettent des cercles au fur et à mesure. Ils mettent un genre de résine entre. Et puis, ça y est, c'est fait.
Ils les fondent dans l'atelier?
Ah, dans l'atelier. Il y a un pont roulant avec le cubilo qui se promène. Il verse, et ainsi de suite.
Vous aviez pas ça? Vous fondiez toujours sur place?
Ah, ouais, toujours. Non, c'était pas équipé, on n'en faisait pas assez.
Et ici, à l'atelier, vous faisiez quoi? Vous prépariez, alors?
Oui, on préparait les moules, oui.
Quand le moule était fini, le moule en terre?
On le portait à Magalas.
Vous le portiez? Et là, la fonderie avec la grande cheminée?
Eh bien, la grande cheminée, elle servait pour les sonnailles, quand on encuivrait les sonnailles.
Ah, mais ça devait faire un grand four.
Mais je vous le montrerai, il y est.
Alors ça, c'est une cloche qui a été refondue?
Voilà. Vous l'avez là, quand on a coulé. Vous voyez la photo? Là-haut.
Ah oui.
Parce que là, on a été à Magalas, on a eu des fours à mazout, basculant.
Mais vous aviez le moule, donc?
Eh bien, il faut le moule, chaque fois.
Vous avez fait un moule à partir de la cloche?
Non, on le construit.
Et pour refondre une cloche qui existe déjà?
Eh bien, on connaît sa note, hein. On a les tracés, c'est-à-dire les données. En abscisse, vous avez les côtes, ça vous donne la cloche, le profil de la cloche.
Et le but, c'était d'essayer de la refaire pareil, quoi.
On a refait la même. Ouais. Oui, ça pose pas de problème.
Avec les anges dessus, comme ça.
Voilà, mais ça, on l'a pris avec de la cire. Pâte modelée et cire. On a fait comme on fait pour les lettres ou les frises, tout ça, c'est fait à la cire.
Il y avait des sonnailles Triadou. C'est plutôt des cloches en bronze, comme les cloches d'église, mais... Voilà. Marqué Triadou à Rodez, on en trouve des fois.
Voilà. C'est rare. Hein. Après, il s'est associé avec celui de Villefranche, le fondeur de Villefranche d'Aveyron, Villefranche de Rouergue. D'ailleurs, je vais vous dire, toutes les deux portent le nom de Triadou. Mais, si vous regardez bien ces deux cloches, elles n'ont pas le même profil. Regardez bien comme celle-là descend un peu droit, puis elle s'évase en bas. Celle-là est beaucoup plus souple, plus harmonieuse. Ça, c'est une vraie triade. Ça, ça doit être un fils qui s'est associé avec celui de Villefranche. Alors, ils ont gardé, vous voyez, le Christ, c'est le même, hein, bon. Ils se sont, vous voyez, en bas, c'est pareil, la frise.
Les feuilles de
chêne.
Ils
se sont passés les motifs. Mais elle n'est pas harmonieuse comme celle-là. Ce n'est pas le même tracé. Vous voyez ? Triade à Comtesse, père et fils, 1879.
Votre grand-père, jusqu'à 200 ans, il aurait fait des cloches ?
Oh oui, même mon père. Mon père était très passionné. Dans la profession, on était réputé. Hein. Même, vous voyez, pour les sonnailles, c'est mon arrière-grand-père qui a formé un peu tout. Aubagnac et Rémy se sont formés par mon grand-père.
Rémy dit toujours une chose, tout nous vient des graniers.
Exactement.
Après, eux, ils ont fait des sonnailles, les cloches d'église, c'était vous.
Oui, eux, ils faisaient que des sonnailles, oui, oui. Mais, c'est vous dire, on en faisait. Rémy en faisait, Aubagnac en faisait. Et Naï aussi. Donc regardez s'il devait s'en vendre à l'époque. Mais moi, je me souviens, mon père, des sacs entiers, on expédiait de sonnailles. Hein. Et mon grand-père, hein, il en expédiait en Argentine, il en expédiait en Grèce.
Ah oui, vous faisiez une cloche que personne d'autre a fait.
Le clochard.
Le clochard. Il n'y a que vous qui faisiez ça.
Voilà le clochard. Et voilà un petit redon. Ça, c'est le redon pour les agneaux, là. Vous voyez le petit, là. Ça, c'est un redon. Et ça, c'est le clochard.
Ah oui, donc c'est un redon allongé.
Et ça, il est un peu moins bombu et il est allongé.
C'est ça. Et c'est ça qu'ils aimaient en Argentine ?
Voilà. Pour le clochard, il y a longtemps qu'on n'en faisait plus. Hein. Ça, c'est une pièce de musée, celle-là. Hein. Je vous montrer.
Le clochard, il n'y a personne qui vous a copié.
Non.
Wow, c'est le catalogue. C'est précieux, ça. Et vous en avez plusieurs comme ça ?
Eh non.
Mais ça n'a pas été copié, les clochards.
Non.
C'était envoyé en Argentine. Pour les moutons, alors ?
Pour les moutons. Et la platelle qui était rivetée. Oh là là. Voilà, la clape, hein. C'est ce qui se vendait le plus.
Dans les Cévennes.
Voilà.
Vous aviez un concurrent qui était bon, là. C'était Serre à Ganges.
Voilà. C'est ça.
Il en faisait des bonnes, lui. Vous l'avez connu ?
Non, moi non. Je ne l'ai pas connu. Je sais que mon grand-père le disait toujours. Serre à Ganges, c'était le champion. Et il avait un tout petit atelier, il n'en faisait pas beaucoup. Hein. C'était vraiment petit comme atelier. Et il faisait, nous on faisait, je ne sais pas, on mettait une dizaine de paquets dans le four. Lui, il en mettait un chaque fois, il avait un tout petit truc. Mais bon, il en faisait à force.
Il faisait que la clape.
Il faisait que la clape.
Elle était un petit peu plus étroite à la bouche.
Voilà. Pour en trouver, c'est... Parce que... Pouh, Serre, il a fermé quoi dans les années 50 par là hein, et... Il y a longtemps hein, qu'il a arrêté. Hein. On n'a plus les tôles comme auparavant. Moi, je me souviens, là, un peu après la cloche, jusqu'au mur, on avait des rails et on avait toutes les épaisseurs de tôles, pour les sonnailles. Hein. Mais on ne le trouve plus maintenant. On ne le trouve plus. Il paraît que Naï, il a tout le mal du monde, il va en chercher en Belgique, là-bas. Les gens, maintenant, si vous ne prenez pas, c'est fini, il faut des quantités. Remarquez, moi, je vais vous dire, hein. Je me souviens, on y est, hein. On montait, on allait chercher les tôles. Hein. Il y avait un wagon de tôle à Graisse-Sac. Je me souviens, une... Pff, oh là là. Et alors, j'étais petit. Et alors, on y passait 3 jours au moins avec un petit camion Citroën, là. Et alors, on le chargeait, il faisait 2,5 tonnes. Et alors, on le chargeait, on montait, puis le lendemain, on redescendait. Mais ça me fait des tôles, hein, l'une. Alors là, il nous garait le wagon dans un coin de la gare. Et puis, il était à disposition jusqu'à ce qu'on le vide.
Parce qu'à l'époque, en fonction de la cloche, on ne mettait pas la même épaisseur.
Ah, et non. Et non. Non, non.
Et maintenant, c'est plus possible. Je crois que c'est tout normalisé. Il y en a
plus. Mais on ne trouve plus la toile. Moi, je me souviens, les derniers temps, mon père, là, il avait eu du mal. Alors, il fallait pas prendre 10 tonnes. Puis après, les derniers temps, on nous avait dit, regardez en Espagne ou en Italie, mais 10 tonnes. Mais 10 tonnes d'une épaisseur. Parce qu'on faisait la 5/10, la 6/10, la 8/10. Après un millimètre, on trouve. Hein. Mais là, c'était celles qui étaient fines. On ne trouve plus. Alors, vous ne pouvez pas prendre 10 tonnes d'une... Mais on en aurait pour 3 générations. C'est pas possible. Il n'y a pas de facilité comme avant. Tout a changé. Les aciéries, maintenant, on est bien. Il n'y en a plus, là, en France. Il n'y a plus rien. Alors. les lingots pour faire les cloches, et même pour faire mes grelots. Avant, ça s'appelle des affineurs, ceux qui fabriquent les lingots. Avant, il y en avait 4 en France. Les derniers temps, j'en avais trouvé un finalement, un monsieur Bourg, très gentil, monsieur très gentil, mais d'ancienne école déjà. Et alors il m'avait fait, parce que pour les grelots, pour cette machine, il faut vraiment un pourcentage, tant de 60% de cuivre, 40% de zinc. D'ailleurs, chaque fois, il y avait l'analyse, hein, il me livrait avec l'analyse. C'était impeccable. Impeccable, un peu d'aluminium pour la coulabilité, c'était formidable. Bon. Et puis ce monsieur, le pauvre, 68 ans, il me dit, monsieur Dernier, je prends la retraite, mais mon fils prendra la suite. Hein. Ah ben, je lui dis, ça va, pas de problème. Parce que vous comprenez, j'en prenais pas. Il faisait que des petits fondeurs, il servait que les petits fondeurs. 6 mois après, il était mort. Il n'a pas eu de chance, cet homme. Et je l'ai appris en téléphonant à son fils. À la maison, et le film m'a dit, mais papa vient de mourir, justement. Alors bon, il m'a dit, qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur Granier? Eh bien, ça, ça et ça. Bon, eh bien, d'accord, comme d'habitude, comme d'habitude. Ça a duré un an, ça. Au bout d'un an, il m'a dit, écoutez, monsieur Granier, moi, pour servir que des petits fondeurs, je ne gagne plus ma vie. Et il m'a dit, il vous faut voir en Italie ou en Espagne. Je me suis renseigné. Mais c'était pareil. Moi, qu'est-ce que je lui prenais? 5 tonnes dans l'année. Mais il fallait prendre 20 tonnes avec ces jeunes-là.
Il aurait fallu s'associer à plusieurs, mais c'est difficile.
Oui, mais justement, je trouvais... Oui, mais il n'y en a pas beaucoup qui faisaient du 40-60. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors, il m'a dit, écoutez, j'arrête. Il m'a dit, j'en ai un peu d'avance, si vous voulez, je vous l'envoie pour le temps que vous trouviez. Bon, alors, eh bien, d'accord, faisons comme ça, il m'a envoyé 2 tonnes. Et puis, un jour, je lui téléphone, hein, et je lui dis, dites, ça s'épuise le stock, là, alors comment... Il m'a dit, je vais vous dire, j'ai décidé, j'ai arrêté la fonderie, parce que c'est une fonderie quand même qu'il avait. J'ai arrêté, je vais faire du négoce. Je vais acheter en Italie, en Espagne, et puis je revendrai en petite quantité à des petits fondeurs comme vous. Oh, je lui dis, parfait, c'est bien. Mais est-ce que ça sera le même? Oui, oui, il me dit. Le premier, je lui dis, écoutez, envoyez 500 kilos pour voir. Ça venait d'Espagne. J'ai fait... Même pas une journée de coulée, ça n'allait pas du tout. Alors je lui ai dit, on s'est un peu attrapé, tout ça, j'ai dit, écoutez, quand votre père m'a livré, j'étais toujours content, là il y a un truc. Parce que là-bas aussi, vous comprenez maintenant, qu'est-ce qu'on fait? De la série. Donc ils font à peu près que ça convienne à un fondeur comme ça, un fondeur pour ceci, un fondeur pour cela. Ils ne faisaient pas vraiment personnalisé. Bon, il m'a dit, monsieur René, je veux dire quelque chose. Si vous voulez, on va pouvoir avoir ce que vous preniez. Mais alors, il faut le prendre en Allemagne et ça va coûter plus cher. J'ai dit, moi, je n'ai pas le choix. Parce que le reste, les grelots étaient fendus ou troués. J'ai dit, moi, je ne peux pas couler comme ça une journée. Hein. Et alors, il m'a envoyé des lingots d'Allemagne qui ont été impeccables.
Après, il faut pouvoir les vendre à un bon prix, quoi.
C'est je l'ai pris sur moi. Parce que moi, les grelots, ça commençait à être là. L'arrivée des grelots du Pakistan, mais ils vendent le grelot 6 euros. 80 centimes d'euros, il coûtait un grelot.
Et les marques sur les sonnailles, alors comment ça se passait? Moi, j'ai des cloches avec le mouton. Mmh. C'était la marque de qui, ça?
C'était nous.
Jusqu'au bout, vous avez fait ça?
Oui.
Jusqu'au bout, vous mettiez le mouton dessus?
Oui.
Mais ça, vous rajoutiez à la main, donc vous
tapez... Non, quand on emboutissait la tôle...
On le mettait au départ.
Mais on le mettait au départ. Puis sur la fin, on ne le mettait même plus. Ce qui est dommage. Hein. Mais au début, François, pas François Xavier, François, mettait Granier. C'est ce que vous devez avoir.
Moi, j'ai un redon qui est marqué François Granier.
C'est ça. Donc, il date de début du siècle.
Alors, Bonnel m'a dit un truc. Que vous vous recouvriez... De la droite à gauche, voilà. Parce que vous aviez une cisaille à main voilà. Gauche, c'est ça?
C'est ça.
C'est vrai, ça?
Oui. On les reconnaissait comme ça, là, une taille, là, vous voyez, ils n'étaient pas là. Eux, ils recouvraient dans l'autre sens.
C'est ça. Vous rentrez...
On rentrait cette partie, là, vous elle rentrait dedans... Et puis on recouvrait avec le morceau qui restait.
Et ça, ça.
Et eux, ils faisaient l'inverse.
Parce qu'ils avaient une cisaille à l'autre main.
Voilà.
Ça, c'est une petite pyrénéenne.
C'est une petite pyrénéenne. La numéro 1, oui. Elle est vieille. Hein.
Elle sonne encore ?
Sûrement.
Hein ? Ça sonne encore bien ?
Ah oui, oui, oui. Les raisons, on en a... Vous voyez, il n'a pas la bouche pointue comme l'espagnol.
Oui.
L'espagnol, il a la bouche plus... Ou Naï aussi, d'ailleurs. Hein. Naï, il fait un peu comme l'Espagne. Hein. Ils ont la bouche plus affinée ici. Nous, elle est plus large. Et le redon, plus aplati un peu. Oh, Cervelle disait, c'est le meilleur redon que j'ai connu, c'est le vôtre. Après, en 92, en 95, on a décidé d'arrêter de faire des sonailles. Moi, ça ne m'intéressait plus. Et alors, on avait un neveu, un peu éloigné, qui ne savait pas quoi faire. Et alors, il voulait prendre ensuite la fonderie, tout ça. Bon, mon père, oui, qu'est-ce que tu en penses ? Ben moi, j'étais très, très dans mes trucs électriques, là. En plus, ça commençait à être aussi les automatismes mais électroniques. Il fallait que j'aille apprendre, tout ça. Je ne pouvais pas m'occuper de tout. Bon, je dis, écoute, qui s'en occupe ? Et ce couillon-là, il s'est aperçu que de faire les sonailles, ça lui coûtait cher aussi, qu'il les vendait pas au prix où il fallait. Et un beau jour, il a trouvé celui qui est en Navarre, je ne sais plus comment il s'appelle, à la Comberie. Alors il avait toutes les matrices, avec le balancier qui était là d'ailleurs, le balancier à main. Il va à la Comberie, il dit, voilà, je te donne les matrices et tu me fais des sonailles comme ça. Il parle à la Comberie, il a pris les matrices, hein. Mais il a continué à faire comme il faisait, parce qu'elle ne s'adaptait pas à sa presse, tout ça, il ne s'est pas embêté. Et lui, il revendait les sonailles de la Comberie. Voilà. Et finalement, là où c'est que je ne sais plus où sont passées nos matrices. Et ça, c'est ce qui me fait le plus de peine. C'est un redon qu'on ne peut plus refaire, c'est fini. Et ça, ça me fait peine.
Mais 95, c'est l'époque où Bonnel a arrêté.
À peu près, oui. Ça a été l'invasion de l'Espagne.
Aubagnac, il est mort à peu près dans cette année, au moment-là.
À peu près. Ça a été, en 95, ça a été pratiquement la fin des trois sonnaillers. Et est-ce qu'il y est, on dit.
Et vos parents, ils ne parlaient pas toi encore ?
Oui, ou mon père, beaucoup. Ma mère, pas trop, non. Mais mon père, ma mère, non, parce qu'elle n'était pas issue de la campagne. Alors, voilà. Mais mon père, il parlait le patois, il comprenait déjà, mais il le parlait bien, hein. Puis avec les bergers, il parlait aussi, oui, oui, oui. Oh, mon père était un homme intéressant, hein. C'est que j'ai vu ce terroir. Vous voyez, une tôle préformée pour un redon. Ça, c'est une première passe à la presse.
Ça, c'est un gros redon, quand même.
Ah oui, oui, déjà, vous voyez. Alors après, sur la bigorne, on l'a rangé. Alors c'est là qu'on faisait les entailles, vous voyez. Ici et ici, vous voyez. Ah oui, parce que là, un redon comme ça, il y avait double entaille. Hein. Et oui, pour le tenir fermé. Et puis après, c'est le bord qui tenait l'ensemble. Oui, il est bordé.
Le bordé, il tient le reste.
Ah ben déjà, ça a aidé à tenir pour le finir après.
C'est un savoir qui se perd, ça, quand même. Hein. C'est dommage. Hein.
Bon, c'est fini. Regardez cette petite pérénéenne. Elle est mignonne, hein. Vous voyez maintenant ce qui se fait, voilà. La Tunisie. Un prix ridicule. Hein. Vous voyez, il n'y a pas d'entaille, il n'y a rien. C'est soudé là, c'est deux morceaux de tôle soudés.
Oui, puis,
une bride vite faite, ils attachent le. Oui, ils mettent un clou.
Puis peut-être que l'enfant qui l'a fait, il n'est pas payé non plus lui.
Oups.
C'est ça, c'est peut-être des enfants.
Quand je vois toutes les cloches, tous les modèles, tout ce qu'il y a sur le catalogue là, tout est sorti des ateliers. Et puis, vous voyez, il n'y a plus rien. 14 francs le kilo à l'époque. Mais il y en a un encore plus ancien de François Granier, dont mon arrière-grand-père. Ils l'ont un au musée à Magalas. Ils l'ont d'ailleurs en français. Et ils l'ont aussi en espagnol, parce qu'à cette époque-là, c'est mon grand-père qui vendait en Espagne. Et qui maintenant, c'est l'espagnol qui...
Ah oui.
Ouais, ouais.
Et peut-être aussi en Argentine. Il fallait peut-être
être en Espagne. Et en Argentine aussi.
Il fallait être en
Espagne. Mais il a maintenant en Espagne pas mal. Donc.
Et à l'époque du musée, il faisait des démonstrations ici. Ça marchait avec le musée.
Ouais.
Ouais. Mmh. Les gens allaient au musée, puis ils venaient voir les démonstrations là. Voilà. Ah, ça devait être bien ça.
C'était bien.